Frères et sœurs, que je rejoins une fois encore à travers cet enregistrement, puis à travers l'Internet, nous voici donc en train de célébrer cette belle solennité du Christ roi, avec ces merveilleux textes qui nous ont été donnés, que nous avons à méditer. J'espère que chacun de vous a pu prendre le temps, soit seul, soit en famille, pour lire, pour prier ces textes. Nous sommes en l'évangile de saint Matthieu, chapitre 25, qu'on appelle le jugement dernier, où notre Seigneur parle à ses disciples. Alors, qui parle? Évidemment, pour nous, c'est peut-être une évidence. C'est Jésus de Nazareth, le Verbe éternel qui a assumé notre nature humaine. C'est certainement moins clair pour ses contemporains et même pour les disciples. Eh bien, dans ce texte, notre Seigneur bien-aimé révèle d'une manière extrêmement limpide qui il est, le Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire, et les anges seront avec lui, et il siégera sur son trône de gloire. Ainsi, le charpentier de Nazareth, le fils de la Vierge Marie et comme on le croyait de Joseph, révèle ici qui il est en plénitude. Il est à travers cette figure du Fils de l'homme, non pas un fils d'homme comme parfois on a tendance à traduire, c'est-à-dire un homme parmi les autres, il est le Fils de l'homme, celui qui était annoncé par les prophètes, celui qui vient dans les nuées, il est le juge de toute l'humanité, de tous les temps. Ce texte, lorsque nous le lisons, peut-être nous fait-il un peu peur. Et pourtant, c'est une merveilleuse nouvelle. D'abord parce que nous savons vraiment que le Christ vient dans la gloire, même s'il y a 2000 ans que l'humanité attend, il n'empêche que ce jour est chaque jour plus proche. Et nous sommes ce peuple convoqué par le Seigneur qui entend l'appel du Seigneur et qui répond « Oui, me voici, me voici. » C'est une bonne nouvelle aussi parce que Jésus nous fait là des révélations apaisantes, apaisantes. La première chose qui est dite « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Voilà, quelle merveilleuse nouvelle. Nous sommes faits, façonnés, créés par Dieu pour l'héritage. Et l'héritage, c'est le royaume, c'est-à-dire c'est la vie avec Dieu. Mais le royaume, c'est l'ensemble. Nous sommes faits pour cela. Voilà déjà, je crois vraiment, une merveilleuse nouvelle. Jésus, ici, révèle le dessein de Dieu. Encore une fois, le petit charpentier de Nazareth révèle le dessein bienveillant du Père. Nous sommes créés pour cela. C'est la dignité de chacun de nous. Notre vocation, frères et sœurs, elle est divine. Nous sommes faits par Dieu, nous sommes faits pour Dieu. Créé pour recevoir le royaume en héritage, pour vivre avec Dieu. Et cela depuis la fondation du monde. En parallèle, il y a ce que le Seigneur dit à ceux qu'il a mis à sa gauche. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparés pour le diable et ses anges. Là, ça n'est pas une préparation avant la fondation du monde ou depuis la fondation du monde. C'est quelque chose qui, entre guillemets, est créé à la suite du péché des anges, de la rupture d'alliance. Donc, il faut bien prendre ces paroles avec toute leur richesse. D'un côté, l'appel de Dieu sur l'homme qui est l'héritage de la vie éternelle dès la fondation du monde. Mais puisqu'il y a eu une rupture avec les anges, le diable et ses anges, eh bien, il a fallu les mettre quelque part, si on peut dire ainsi. Et là, il y a donc ce feu éternel qui, à ce moment-là, est comme créé. Mais l'appel de Dieu pour nous, dès l'origine, c'est la vie éternelle. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas, ça n'est pas une parabole en tant que telle sur le jugement. Ça nous rappelle le plan d'amour de Dieu. Nous sommes faits pour cela. Nous ne sommes pas faits pour la séparation avec Dieu, pour le feu éternel, pour l'enfer. Et le poteau indicateur sur notre vie, c'est la croix du Christ. Et au moment de notre mort, il est évident que nous serons devant le Fils de l'homme, le Christ ressuscité, avec les stigmates de la croix. Et le Christ nous montrera cela, sa plaie du cœur. Mais non pas pour nous rejeter, non pas pour dire « Voilà ce que j'ai souffert pour toi et toi tu ne m'as pas aimé ». C'est simplement « Est-ce que tu veux ? » Est-ce que ta vie a été un accueil de cet amour ? Est-ce que ta vie a été un « Je t'aime » ? Parce que voilà le critère du jugement pour le tri. Non pas le culte, la religion, les prières. Mais il en faut, parce que pour vivre selon le cœur de Dieu, il faut la prière, il faut le culte, et il faut être relié à Dieu et relié aux hommes. Donc ce n'est pas un rejet de tout cela. Mais ce qui sera demandé, c'est l'amour. Comme dit Jean de la Croix, au soir de ta vie, tu seras jugé sur l'amour. C'est le cœur de l'homme qui est jugé. Est-ce que ton cœur a été dur comme pierre, ou est-ce qu'il a été liquide, comme dirait le curé d'Ars? Est-ce que tu as eu le cœur liquide? Est-ce que ton cœur a fondu devant la souffrance et la misère de l'autre, ton frère? À partir de ce texte, Matthieu 25, l'Église va développer sans cesse les actes de miséricorde, et que notre pape François nous a bien rappelé avec son texte « Miséricordiez-vous tous ». Les actes de miséricorde. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Au fond, c'est simple. C'est simple. Ce texte, ces paroles de Jésus nous disent que nos humbles gestes d'amour ont une valeur infinie, une valeur d'éternité. Et la liste que Jésus nous donne n'est pas exhaustive. Elle reprend bien des passages du Premier Testament. On peut y ajouter le soin des parents pour leurs enfants, ou aussi l'attention des enfants portée à leurs vieux parents, la main tendue à un voisin pour une réconciliation, un sourire donné, etc., etc., etc. Mais c'est simple. C'est vraiment dans l'ordinaire de la vie que tout va se jouer. Dans la grisaille quotidienne, dans les choses les plus ordinaires, le Seigneur ne parle pas de ceux qui ont vécu dans l'extase, dans les révélations, les visions, qui accomplissent des miracles. Non, non, non. Si bien que les justes et ceux qui sont réprouvés dans le texte, les deux sont étonnés. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Quand est-ce que nous t'avons vu ? Quand est-ce que nous sommes venus jusqu'à toi ? Si vraiment on t'avait vu, disent les deuxièmes, on serait mis évidemment à ton service. Nous ne percevons pas la profondeur de ce que nous vivons, des actes que nous posons ou que nous ne posons pas, de nos paroles ou de nos silences. Ce n'est qu'au jour du jugement que nous en prendrons conscience. Mais dans ce texte, il me semble que Jésus nous dit une chose absolument fondamentale, que le jugement n'est pas fait par Dieu, mais par nous. Ce sont nos actes qui nous jugent, notre conscience. Si bien qu'on peut dire que le jugement, en fait, il se réalise chaque jour. Au soir de ce jour, Christ roi, avant d'entrer dans le sommeil, quand je vais regarder ma journée, je vais avoir un langage binaire. Est-ce que j'ai aimé cette personne? Oui, non. Ou est-ce que j'ai essayé au moins? Est-ce que j'ai visité tel autre? Oui, non. Est-ce que j'ai accueilli? Oui, non, il n'y a pas d'autre chose. Au soir de chaque jour, on pourrait dire, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Le jugement se réalise chaque jour. J'ai ou non relevé cette personne, secouru tel autre, si bien que nous sommes nos propres juges. Et au dernier jour, Dieu nous fera connaître la profondeur de ce que nous avons vécu. Il nous révélera tout cela. Mais le jugement, c'est bien nous qui l'aurons prononcé. Évidemment, dans ce texte, il y a aussi une autre chose merveilleuse, cette identification de Jésus avec tout homme. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, en humanité, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Cela nous rappelle, quelques années plus tard, la rencontre à Damas, sur le chemin de Damas, entre Paul et le Christ. « Mais qui es-tu, Seigneur ?» dit Paul lorsqu'il est tombé de son cheval et de ses certitudes. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ne cherchons pas le Christ au loin. Il est là, caché. Il est caché dans ton prochain, c'est-à-dire dans celui que tu côtoies maintenant. Alors, le Christ nous révèle encore une chose, il y en a sûrement d'autres, mais à chacun de les découvrir dans la prière, il nous révèle qu'il ne suffit pas de ne pas faire le mal. C'est insuffisant. Il faut faire le bien. Aimer, c'est vouloir du bien à l'autre. Et même au sens fort, aimer, c'est vouloir que l'autre soit en Dieu. Alors, laissons le Christ nous saisir. Le Christ qui, tout au long de sa vie, a essayé de conduire ses contemporains vers le Père. Nous sommes en Matthieu 25, mais en Matthieu 23, à la fin du chapitre, je vous relis ceci parce que nous l'avons lu il y a quelque temps, mais c'est pour bien comprendre comment le Christ prononce ce texte. Il est devant Jérusalem, il va être mis à mort. Et il dit ceci, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, vous n'avez pas voulu. » Et le texte d'aujourd'hui, c'est encore une tentative de rassembler les enfants. Et les bras étendus sur la croix, et le côté percé par la lance du soldat, ce sont encore des tentatives, c'est l'ultime tentative pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et voici la suite qui va très bien avec notre texte et avec la mort de Jésus. Jésus dit ceci, « Voici, votre temple vous est laissé, il est désert. En effet, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Votre temple, il est désert. Heureusement pour nous, frères et sœurs, il y a la croix comme un poteau indicateur qui est toujours dressé entre terre et ciel et qui nous rappelle la miséricorde de Dieu. Cette croix, d'une certaine manière, est là pour nous bloquer parce que le Christ a les bras étendus, le chemin vers le feu éternel, bien sûr. Il y a pour nous encore la possibilité du repentir. Au soir de chaque journée encore, au moment d'examen de conscience, de voir ce qui a été réussi et de louer le Seigneur pour cela, parce que j'ai coopéré avec l'Esprit Saint, ce qui a été raté, je me mets à genoux, la tête dans la poussière, et je demande pardon et je pleure mes péchés. Et il y a le merveilleux sacrement de la miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Rendons grâce au Christ roi qui nous révèle tout ceci. Il frappe maintenant à la porte du cœur de chacun d'entre nous. Veux-tu me laisser entrer, moi et le Père ? Et si tu nous laisses entrer, nous souperons avec toi, nous mangerons avec toi, nous ferons de toi notre commensal. C'est-à-dire, nous te donnerons part à notre divinité. C'est dans nos mains, frères et sœurs, c'est dans notre cœur, à nous, de choisir la vie. Que la Vierge Marie, les saints, Sainte Cécile, que nous fêtons aujourd'hui aussi, que les saints nous aident à nous laisser brûler par le feu de l'Esprit Saint, par l'amour divin. Amen, alléluia.